je vais vous parler un peu de notre système éducatif. C'est quelque chose que depuis 3 ou 4 ans, tous les proviseurs d'Helsinki font très très souvent. Curieusement, la Finlande est devenue un pays qu'on visite, pas pour les lacs ou pour la neige ou pour les reines dans l'or, mais pour son éducation. Il y a eu un changement énorme, par exemple, dans les. Nous faisons des échanges avec quelques écoles en France, et tous les ans, nous avons plusieurs jeunes Français qui viennent nous voir. Depuis PISA, les jeunes soudain s'intéressent à l'éducation en Finlande. Et ils font des comparaisons assez intéressantes que je vais vous peut-être. Dont je vais peut-être donner un spécimen à la fin de cet exposé. Très bien, alors commençons donc avec le système éducatif en Finlande. La Finlande, d'abord, est un très petit pays. Je crois d'ailleurs qu'une des raisons de notre relative réussite, bien sûr, c'est que nous sommes un petit pays. Il est possible de faire des réformes quand on n'a que 5 millions d'habitants. Et nous en avons justement 3 millions. Donc c'est un petit pays. On peut dire que quand un Finlandais va à l'étranger et voit un autre Finlandais, après quelques minutes, ils connaissent toujours quelqu'un. Ils connaissent quelqu'un qui le connaît. Donc la Finlande est un petit pays. Mais c'est un pays aussi qui n'est pas du tout bureaucratique, mais qui est quand même assez centralisé, je dirais. Donc, en ce qui concerne la politique scolaire, c'est bien sûr le Parlement qui gère la politique en nous donnant les lois scolaires. Nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui s'occupe de la politique en grande ligne. Et puis il y a une direction nationale de l'enseignement qui établit les programmes, qui s'occupe de la formation des professeurs ou des enseignants. Et puis il y a normalement un bureau d'enseignement municipal qui gère toutes les écoles qui sont dans une commune. Les quelques écoles privées sont leur propre bureau d'enseignement. Et puis, chaque école a un comité de direction de l'école qui est élu, mais proposé par le bureau d'enseignement municipal, sauf dans le cas d'une école privée où le proviseur est obligé de trouver les membres de son comité de direction parmi les parents d'élèves. Et puis, il y a les écoles. Et les écoles sont assez autonomes en Finlande. De plus en plus autonomes. Je dirais que depuis les années 70, les proviseurs, par exemple, ont gagné beaucoup de pouvoir. Par exemple, c'est au proviseur de choisir ses professeurs ou ses enseignants. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc, maintenant nous allons voir ce que c'est que ces écoles. En Finlande, la plupart des femmes travaillent. Je crois que nous sommes peut-être le pays où il y a le plus de femmes dans la vie active, et cela veut dire que déjà avant la scolarité, les enfants sont pris en garde par des professionnels. Il y a des crèches, il y a ce que nous appelons des foyers de jour, ou ce serait peut-être plus facile en anglais, on appelle ça des day homes. Et je trouve que c'est important le choix de mots, parce que home, pour nous, ça veut dire que les enfants, à cette époque-là, n'ont encore rien à faire avec l'école. Ce sont des remplaçants de leur maison, ou de leur chez soi. Mais, puis, ce système date à peu près de 1970. C'est dans cette époque qu'il y a eu une grande réforme très révolutionnaire et qui a posé beaucoup de turbulences politiques. On a décidé de créer ce que nous appelons l'école fondamentale, le collège unique, de la première année scolaire jusqu'à la neuvième. Jusque-là, nous avions un système parallèle, d'école parallèle, avec 4 ans de ce que nous appelions école du peuple, et puis après, il fallait se décider si on voulait continuer dans cette école ou si on entrait par concours dans un établissement secondaire qui durait donc 8 ans, un peu comme en Allemagne, encore de nos jours. C'était le gymnasium allemand, tout court. Mais cela a été aboli, donc en 1970. On a commencé par le nord du pays, parce qu'on a trouvé que parce qu'il y avait très peu d'écoles dans le nord, ça allait plus facilement. Et puis on est, en 1977, on est allé à Helsinki, et là, on avait déjà pu montrer que ça... C'était pas le chaos après l'école fondamentale. Donc, depuis cette époque, nous avons à l'école de base, où, dans les 9 premières années, nous avons une école unique. Et depuis quelques années, chaque enfant a aussi droit à un enseignement préscolaire. Ce qui veut dire que cet enseignement préscolaire est donné ou bien dans une école, ou bien dans un jardin d'enfants, mais c'est quand même, il y a quand même des objectifs qui ressemblent beaucoup déjà à l'école. Et je crois qu'on va... dans les années qui viennent, probablement mettre cet enseignement préscolaire carrément dans toutes les écoles. Jusqu'ici, il y a encore un peu d'hésitation. Et puis, à l'âge de... dans l'année où un enfant finlandais fête son septième anniversaire, il est scolarisé. Ouais, nous sommes très égalitaires. Et nous avons, il y a eu, il y a quelques années, beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce que nous les scolarisons trop tard? Mais là, PISA nous a réconfortés parce que nous avons trouvé que malgré la scolarisation, quand même comparativement tardive, nous avons réussi à quand même... donner une éducation, une bonne éducation pendant les 9 années de collège unique, d'école unique. Et je crois que pour le moment, on n'envisage pas de scolariser les enfants plus tôt, mais on peut toujours scolariser son enfant plus tôt si on passe par des tests de psychologue. Et c'est assez courant, surtout pour les filles, de cette scolarisation précoce. L'école fondamentale est divisée, ou était surtout divisée en deux parties. Il y avait l'école primaire, de la première année jusqu'à la sixième, et après le collège, de la septième jusqu'à la neuvième. Mais maintenant, on essaie de créer des écoles qui, au moins administrativement, soient une seule école. Bien qu'évidemment, comme les bâtiments sont là où ils sont, ça prendra beaucoup de temps. Mais on ne veut plus de cette division entre l'école primaire et collège. Et puis, à la fin du collège, on a reçu un bulletin qui est basé sur ce qu'on a fait pendant les deux dernières années. Mais il n'y a pas de tests nationaux ou autre chose, c'est seulement le bulletin quand même du travail qu'on a fait à l'école. Et la plupart des enfants réussissent. Les échecs à l'école fondamentale sont très rares. Mais il y en a qui ne réussissent, surtout à leur avis, qui ne réussissent pas assez bien. Parce que du moment qu'on veut continuer ses études au lycée ou dans une école professionnelle, là, on est normalement choisi sur dossier. Donc la moyenne devient importante. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la possibilité de faire une dixième année à l'école fondamentale si on veut améliorer ses notes ou si tout simplement on a peut-être encore un peu besoin de mûrir. Et mais un grand nombre, 60% des élèves passent au lycée et le reste passe dans la formation professionnelle de leur choix. Et ce passage est assez compétitif. Pour entrer au lycée, donc on regarde la moyenne. Il faut avoir un minimum. Par exemple, dans la ville d'Helsinki, on est obligé d'avoir. Nous notons de 4 à 10. Il faut avoir une moyenne de 7 pour pouvoir entrer dans un lycée, mais pas nécessairement dans le lycée de son choix. Parce que, par exemple, si on veut entrer chez nous, ce qui est possible, parce que nous avons des places aussi pour. De toute façon, tout le monde doit envoyer son dossier pour pouvoir entrer dans notre lycée. Si ce sont nos élèves ou si ce sont des élèves de l'extérieur, ça n'a rien à faire. C'est l'ordinateur qui calcule la moyenne et qui après nous envoie la liste. Et comme ça, nous savons qui seront nos élèves l'année suivante. Donc chez nous, par exemple, ça dépend de la langue, de la première langue étrangère qu'on choisit, mais si on choisit l'anglais, on doit avoir 9,3. Si on choisit le français, ce qui est peut-être le cas le plus courant chez nous, dans ce cas, on a besoin seulement de 8,5. C'est déjà une très bonne moyenne. Donc, c'est compétitif. Il y a des lycées qui sont plus populaires que d'autres. Il y a aussi des lycées à dominante, par exemple, comme le nôtre. Si on veut étudier beaucoup de langues, c'est une bonne idée de venir chez nous. Si on veut faire le bac international, nous sommes une possibilité. Si on veut faire du sport, il y a un lycée pour ça. Si on veut se spécialiser en art plastique, on peut essayer d'entrer dans un tel lycée, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choix. au lycée. Et aussi, évidemment, dans la formation professionnelle. Et puis, après, il y a un examen national, comme ici chez vous. Vous avez votre baccalauréat, nous avons notre baccalauréat finlandais, qui est probablement tout aussi valorisé, surtout par les parents, que le vôtre. Et on ne peut pas sortir de la lycée sans avoir terminé les études qu'on fait normalement d'après un certain temps au lycée et d'avoir passé cet examen qui est établi par une commission extrascolaire et en fait par la plupart sont des universitaires. Mais c'est un très bon moyen de voir que le niveau reste le même dans le pays entier, parce que chaque lycéen a exactement le même test devant soi, à la même heure, le même jour, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, ça devient de plus en plus difficile chez nous. Pour entrer à l'université, c'est presque comme entrer dans une grande école. On y entre par concours d'entrée. Et c'est pas évident du tout. Finalement, à peu près, finalement, mais pas dans la première année, finalement, à peu près 30% des jeunes arrivent à avoir une place à l'université. C'est beaucoup plus facile pour les écoles supérieures professionnelles qui donnent une formation de 4 ans et qui sont d'une invention des 15 dernières années. On les a fait un peu à partir du modèle anglais des polytechniques, mais il paraît que les Anglais les ont abandonnés après, donc je ne sais pas. Je ne peux pas dire quel sera l'avenir de ces écoles supérieures professionnelles, mais il paraît que jusqu'ici, ça a quand même bien marché. Donc, c'est dans ce cadre-là que fonctionne notre système. Alors, je vais vous montrer la répartition des heures de l'enseignement fondamental. Nous sommes très centralisés, si vous regardez ça, et je trouve que le système est devenu de plus en plus directif de nouveau. Dans les années 80-90, on parlait beaucoup de choix, on parlait beaucoup du droit des élèves de choisir ce qui leur plaisait, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'était avant Pisa, on se dit qu'il y a quand même que les connaissances de base ne sont pas assez bonnes quand les élèves entrent au lycée et ou dans les écoles professionnelles. Et c'est pour ça qu'on a ajouté pas mal d'heures dans les matières obligatoires. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré les options, mais je vais vous dire comment ça se passe. Et on a aussi mis les heures qu'il faut avoir. Ce sont des heures minimales. Mais on dit maintenant qu'il faut, à la fin de la deuxième année, avoir fait au moins 14 heures de langue maternelle et littérature. Et d'ailleurs, ça, c'est une nouveauté aussi. Autrefois, on n'a prenait que la langue maternelle, mais maintenant, la littérature fait partie intégrale de cette matière. Et puis, dans les années à suivre, troisième, quatrième, cinquième année scolaire, on a encore une fois 14 heures de langue maternelle, qui chez nous est ou bien le finnois ou bien le suédois. Nous avons une minorité suédoise qui a droit, évidemment, d'être enseignée dans sa langue maternelle. Puis, ici, oui, oui, c'est par semaine, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est sûr. Là, c'est sur 3 ans, là, c'est sur 2 ans. Donc, ici, c'est 7 et 7. Là, c'est probablement 5, 5, 4. Et ici, ce qui est nouveau aussi, parce que l'évaluation est devenue plus importante qu'avant. Et alors, ici, il était important tant que les élèves aient atteint certaines connaissances qui sont donc attestées, mais quand même évaluées dans leur bulletin après. Et ici, c'est à la fin de la cinquième année qu'on doit regarder qu'on a effectivement réussi à aussi enseigner le programme. Et puis, 6e, 7e, 8e, 9e, là c'est probablement 4, 4, 3, 3, je crois. Et ça fait qu'on a quand même pas mal de cours de langue maternelle, mais je ne crois pas que nous... Je crois qu'il y a beaucoup de pays où on en étudie encore plus. Puis, nous sommes un pays qui a une langue que personne ne parle. Ce qui veut dire que les langues sont une partie très importante dans nos programmes. Beaucoup plus qu'en Angleterre, je dirais probablement aussi en France, parce que vous avez une langue avec laquelle on peut communiquer aussi dans d'autres pays que le sien, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, on commence la langue, première langue étrangère, on la commence en troisième année scolaire, mais on peut, si l'école le veut, la commencer aussi avant. Mais on n'a que 8 heures. Donc, il y a des écoles qui préfèrent donner un petit avant-goût, avec une heure peut-être en première année scolaire. Il y en a d'autres, comme nous par exemple, qui trouvons qu'il faut appuyer plus fort, qu'il faut avoir un peu d'intensité aussi. Et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs des cours supplémentaires, justement pour les langues en anglais. Et puis, comme nous avons une deuxième langue nationale, il est obligatoire que tout le monde apprenne cette langue nationale, qui est le suédois, et qui commence en 7e année scolaire. Et il faut en étudier 2 heures par an. Puis il y a les mathématiques, et là aussi il y a ces charnières où on doit vérifier que les élèves ont acquis les connaissances requises. Et puis il y a observation et sciences naturelles. Là il y a eu un changement. Maintenant, biologie et géographie commencent déjà en 5e année scolaire, ils sont enseignés ensemble, et de même physique et chimie. Et dans les 4 premières années, biologie, géographie, physique et chimie sont dans cette observation et sciences naturelles. Et aussi, ce que nous appelons éducation à la santé, qui est une nouvelle matière. Ça n'a jamais existé comme matière à part jusqu'ici, mais nous avons un ministre ou une ministre qui prenait ça très à cœur, et c'est pour ça que nous avons maintenant éducation à la santé en 7e, 8e et 9e année. On peut répartir les 3 heures comme on peut. Et puis il y a l'histoire. Enfin, oui, parce que nous sommes un pays protestant de longue date. Nous avons fait partie du royaume suédois dans le temps de Luther. Et donc, la plupart des Finlandais sont luthériens ou protestants, et il y a une petite minorité orthodoxe. Et la religion est une matière à l'école, et il y a évidemment pas mal de gens qui n'appartiennent pas à l'Église, et ceux-là ont, dans ce cas, des cours d'éthique. Et ça continue aussi au lycée. Puis il y a histoire et instruction civique, et matière artistique et manuelle. Là, il y a une des... On avait plus d'heures avant que maintenant, et cela a créé une grande polémique. Et il y a donc musique, art plastique, travaux manuels. Travaux manuels, ça veut dire ou bien de l'ouvrage, ou bien de la technologie, ou bien la fille aussi bien qu'un garçon apprennent à scier et à coudre les boutons et tout ça. Ça fait partie de notre société très égalitaire. Puis il y a éducation physique, bien sûr, aussi très très important. Et puis une spécialité, je crois, nordique, c'est l'enseignement ménager. En septième année scolaire, tous les enfants doivent apprendre à cuisiner. Et après, ils peuvent prendre cette matière encore en option, et c'est d'ailleurs la matière à option la plus populaire. C'est parce qu'après, ils peuvent aussi manger ce qu'ils ont fait. Mais c'est important. Et puis, il y a orientation des études qui se fait par tous les professeurs ou enseignants dans leur classe, mais il y a un conseiller spécial à partir de la septième année scolaire. Et puis il y a plusieurs options, et ces options, on en fait normalement en huitième et neuvième année scolaire. Mais comme je vous l'ai dit, les langues sont importantes et un grand nombre d'élèves, et chez nous par exemple, 100% des élèves sont obligés de prendre, chez nous ils sont obligés, mais autrement c'est une option. À partir de la cinquième année scolaire, ils prennent une langue facultative à deux. Et à la fin, en neuvième, ils sont censés d'avoir d'aussi bonnes connaissances dans cette langue facultative que dans leur langue A1. C'est peut-être un peu exagéré, mais à la fin du lycée, c'est le cas. Et les autres options, dont il reste seulement 7 en fait, normalement 4 ici et 3 ici, ce sont d'autres cours de sport ou d'art ou de littérature ou de sciences expérimentales ou de musique et évidemment aussi de cet enseignement ménager qui est le cours le plus populaire. Et il y en a une quinzaine. Et c'est aux élèves d'en choisir 1, 2, 3 ou 4 normalement. Ils peuvent en avoir un cours par semaine ou deux, ça dépend des préférences de chaque élève. Et ça, c'est donc l'école obligatoire. Après, au lycée, ça se passe tout à fait autrement. Alors, j'ai dit que nous sommes en train de devenir encore de nouveau assez centralisé. Et tous les programmes pour ces matières que nous avons vues sont faits par les écoles. Mais, à partir de programmes cadres, et c'est ce bouquin, depuis 2004, il y a 10 ans avant, ce n'était que ça. Donc vous voyez que les autorités centrales veulent quand même avoir plus d'influence. Ils trouvent que si on laisse les écoles faire trop librement, ça ne sera peut-être pas aussi bon que... Les résultats ne seront pas aussi bons que jusqu'ici. Bien. Alors, comment est-ce que je vais voir par là? Alors, ces programmes cadres sont donc une base obligatoire et c'est une norme pour les plans d'enseignement individuels des écoles. Donc, on est tenu de les suivre. Ils sont beaucoup plus spécifiques qu'avant parce qu'on veut améliorer les résultats et on avait surtout peur qu'il y ait des différences entre les écoles. On a aussi voulu unifier les théories d'apprentissage, ce dont les Finlandais parlent toujours, c'est le socio-constructivisme. Et puis on a énormément ajouté à l'aide aux élèves et à l'orientation. Et puis on a réformé l'évaluation. Et puis il y a eu quelques changements dans les matières que je viens de vous signaler. On a en plus ajouté des thèmes transversaux parce qu'on voulait mettre un peu de colle entre les différentes matières. Et évidemment, ce sont des objectifs très ambitieux. Mais ce sont des thèmes que chaque professeur doit traiter dans sa matière de la manière qui lui convient. Et puis, pour finir, je vais dire quelques spécificités finlandaises. Et la première, c'est qu'on scolarise très tard. Puis, il y a la gratuité de l'enseignement et de la cantine qui est assez spéciale et qui concerne tout l'enseignement, aussi bien privé que public. Aucun élève ou aucun parent n'a le droit, d'après la loi, de payer quoi que ce soit. La langue maternelle est considérée comme très importante et puis on repère les élèves en difficulté, je trouve, très tôt, à partir de la première année scolaire. En fait, le redoublement est quasi inexistant et il y a peu d'écoles privées, mais ces écoles privées sont totalement subventionnées par l'État. Et puis, il y a une certaine ouverture aux écoles alternatives. Il y a pas mal d'écoles Steiner. Il y a quelques écoles professionnelles. Il y a, par exemple, le bac international dans les écoles d'État, au lycée, et ainsi de suite. Il y a assez peu de preuves de bureaucratie. Par exemple, il n'y a pas d'inspecteur. Et puis, je trouve que la formation des enseignants est une réussite dans notre pays. Tous les enseignants ont une maîtrise de 5 ans. S'ils enseignent en première, ou comment est-ce que vous appelez ça, cours préparatoire, oui, ou en dernière, en terminale. C'est pas la même formation, mais c'est la même durée des études universitaires. Et ils appartiennent même tous au même syndicat, à partir des jardinière d'enfants jusqu'au professeur d'université. Et puis, pour finir, je trouve que la Finlande est un des pays où la profession d'enseignant est très valorisée dans la société. Et c'est aussi un pays où les meilleurs élèves, où les meilleurs bacheliers, essaient d'entrer dans les études pédagogiques à l'université. Ça, c'est pas très courant en Europe. Je vous remercie.